Bonjour tout le monde, vous êtes bien dans l'émission Urbaflore. Urbaflore, c'est une fois par mois l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qu'anime Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Alors on t'entend au téléphone parce que tu es chargée de conservation pour le CBN et que là, bah, c'est le printemps et qu'on te retrouve les deux pieds dans des bottes, éventuellement dans la boue, en train de faire des suivis. C'est une des missions du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, les suivis des plantes et de leurs habitats.
Exactement, je suis effectivement de sortie, je m'excuse s'il y a un peu de vent, et j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal de faire une émission en direct du terrain. J'ai les deux pieds dans les bottes, alors pas forcément sur une zone où il y a de la boue, mais comme il a beaucoup plu ces derniers temps, c'est des zones où l'herbe est encore pas mal mouillée, et puis les bottes c'est pratique par rapport aux tiques aussi, éviter de se mouiller les chaussettes. Et tout ça, quoi. Voilà.
Alors, je vais parler du contexte qui fait que tu as les pieds dans les bottes. En fait, tu es en plein protocole de suivi de la sabline des chaumes suite à la dégradation de son habitat. Alors, on va tout expliquer, hein. D'abord, la sabline des chaumes, c'est qui ?
Alors, la sabline des chaumes, c'est une petite plante qui est protégée et qui... est annuelle, c'est-à-dire que son cycle de vie se déroule sur un an. En général, elle a tendance à disparaître en été dès qu'il commence à faire chaud, très chaud. Et elle persiste dans le milieu grâce à la dissémination de ses graines. Donc voilà, elle fleurit en ce moment, au printemps, début d'été éventuellement. Et puis après, en plein été, on va plus la voir. Et la population, l'espèce persiste sous la forme de graines. Et à nouveau, fin de l'hiver au printemps, les petites graines vont germer et vont fleurir. Et le cycle recommence comme ça chaque année. Et cette espèce, elle est donc protégée, ça je l'ai dit, mais elle habite des milieux assez particuliers. Elle habite des pelouses sèches, des pelouses qui sont naturellement érodées, où il y a très peu de sol. Hein. On peut être sur des zones où finalement la roche-mère est affleurante, où il y a pas mal de gravillons. Et c'est une espèce qu'on va appeler pionnière. C'est une des premières espèces à s'installer sur ce type de milieu qui est naturellement perturbé, soit par l'érosion à l'occasion des gels, en hiver. Ça peut être aussi des glissements de terrain, ça peut être tout un contexte qui fait que le milieu est renouvelé. Dès que on a une installation de plantes vivaces, de plantes qui vont s'installer durablement sur le milieu, cette espèce elle a tendance à disparaître, à décliner et au bout d'un moment on la voit plus. Donc elle persiste uniquement sur des zones qui sont naturellement perturbées.
Alors c'est une toute petite plante à ras du sol, 5 pétales blancs et un cœur jaune-vert. Tu vas le décrire mieux que moi.
Effectivement, je ne l'ai pas décrite, mais cette plante, elle est assez assez basse, hein, 5 à 10 cm de haut, plus ou moins ramifiée. Comme tu l'as expliqué, elle a 5 pétales blancs. C'est une plante qui fait partie de la famille des caryophyllacées. Une des caractéristiques des caryophyllacées, c'est que les feuilles sont opposées, c'est-à-dire que sur la tige, elles se font face. Et les caryophyllacées, les jardiniers la connaissent bien, hein, c'est la famille des œillets. Voilà, tout simplement. Pas l'œillet d'Inde, hein, mais l'œillet des poètes. Voilà, que dire d'autre ? Elle a des feuilles qui sont assez fines. Son petit nom latin, c'est Arenaria controversa. Arenaria, ça fait penser au sable, hein, à la reine. Et controversa, j'avoue que je n'ai pas d'explication sur le nom d'espèce. Voilà. Ah ben là, justement, il y a une petite fleur en train d'être butinée par une abeille domestique. en direct depuis le Tarn où je réalise donc ce suivi.
Alors la petite abeille, elle butine la Arenaria controversa, donc la Sabline des Chaumes, qui est protégée et qui est en danger. C'est pour ça que tu es en train de les traquer.
Oui, alors là, plus exactement... Oui, plus exactement dans le contexte, puisque je pense que c'est intéressant d'expliquer pourquoi je suis en train de suivre cette espèce. Comme elle est protégée et qu'on va la trouver sur des milieux type des causses, là je suis sur un causse à côté de Castres où cette espèce est assez présente. Mais le causse c'est aussi un habitat sur lequel l'homme intervient pas mal. Alors oui, il y a du pâturage, mais le pâturage finalement en faisant paître les troupeaux à certaines périodes contribue à perturber le sol en surface et de ce fait contribue à maintenir un habitat favorable à l'espèce. Il y a d'autres perturbations un peu plus problématiques qui sont tout ce qui est installation de zones d'activité ou de zones commerciales. Et malheureusement, cette espèce, dès qu'on perturbe trop le milieu pour artificialiser, hein, notamment, cette espèce va avoir tendance à disparaître. Après, c'est pas une des espèces les plus rares. Hein. Quand son milieu lui convient bien, il peut y avoir des populations de plusieurs centaines de milliers de pieds rien que sur ces zones-là. Mais ça reste une espèce qui est protégée parce que son habitat, notamment les pelouses ou les causses, sont des habitats qui sont menacés par les activités humaines.
Et c'est justement le cadre de ce programme Urbaflore autour des gestions, autour des grandes aires urbaines de la région.
De Midi-Pyrénées, ouais, dans le cadre d'Urbaflore, c'est important aussi d'avoir des informations sur le comportement de ces espèces quand le milieu est perturbé, pour savoir si elles sont en capacité de revenir sur le site après la perturbation. Alors, je parle de la perturbation, mais il peut y avoir tout un tas de perturbations. Bien sûr, à partir du moment où on goudronne ou alors on bétonne, cette espèce n'a aucune chance de revenir sur le milieu. Par contre, si c'est juste gratter, un peu labourer, etc., il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des suivis avec un protocole qui permet de dire est-ce que cette plante, après plusieurs années, va recoloniser ou pas le milieu. Donc là, je suis sur le terrain parce qu'il y a eu une perturbation. Il y a eu des travaux qui ont fait que de la terre a été extraite à un endroit où il y avait de la sabline des chaumes.
Qui vous a appelé?
On a été contacté par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, du Tarn, pour venir déjà apporter un appui, enfin constater, apporter une expertise, et puis éventuellement dire est-ce que la perturbation qui a été réalisée fait que la plante va revenir ou pas. Donc on n'a pas forcément des données sur toutes les espèces, notamment sur cette capacité de revenir sur le milieu, on appelle ça la capacité de résilience, et pour ça, on doit mettre en place des suivis. Donc c'est ce dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et les suivis, on utilise des protocoles qui consistent à installer, par exemple, des transectes. Grosso modo, c'est une espèce de un décamètre, une ficelle. Et régulièrement, ça peut être tous les 10, 20, 50 ou tous les mètres, on va faire un petit pointage et on va voir si la plante est présente. Ça, c'est un type de relevé, bon, que j'ai pas utilisé pour la sabine. Il y a d'autres types de protocoles qui consistent à installer ce qu'on appelle des cadras. Donc, des cadras, c'est des placettes, des cadres. Là, j'ai choisi des cadres de 1 mètre par 1 mètre. Et à l'intérieur de ces placettes, j'ai découpé cette surface d'un mètre carré en 100 petites mailles de 10 cm par 10 cm. Et sur ces mailles de 10 cm par 10 cm, je compte le nombre de pieds. Voilà, alors la sabline, c'est une espèce qui est plutôt petite, donc l'utilisation de ce type de cadras, c'est plutôt adapté. Dès qu'on a une végétation qui est un peu grosse, le cadras, il a du mal à se poser au sol, et donc il faut trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est un cadras d'un mètre carré avec des petites mailles et je compte le nombre de pieds par maille. Alors c'est variable, hein. Il y a des fois il y a il y en a de très nombreux là. J'en ai jusqu'à 25, donc sur 10 cm par 10 cm. Donc c'est vous dire comment la plante peut être très dense. Et puis j'ai eu d'autres mailles où j'ai aucun individu, voire un à deux individus.
Mais attends, c'est super facile de dire du coup donc au service de l'État, il y en a plus si tu poses ton cadre à un endroit où il y en a pas, alors que 10 cm à côté, 1 mètre à côté, il y en a 25 par 10 cm.
Le protocole doit intégrer aussi normalement cette répartition en fait. Là dans le protocole que j'ai mis en place, il y a une zone qui est perturbée et une zone qui n'a pas été perturbée. Et je mets en place aussi des cadras, le long d'un gradient de dégradation, donc de la zone la plus dégradée vers la zone la moins dégradée. Et je regarde comment les pieds de sabline se comportent, en fait, s'il y en a plus, s'il y en a moins. Et surtout, je fais ces suivis sur plusieurs années. Parce que l'espèce annuelle, elle se comporte pas de la même façon d'une année à l'autre. Quand je suis allé sur le site il y a 2 ans, donc c'était déjà 2 ans après la perturbation, il y avait très peu de sabine parce que il y avait des conditions météo qui étaient très sèches. Du coup, j'ai trouvé très peu de pieds. Et puis l'année suivante où il a plu, hein, l'année dernière par exemple, il y avait pas mal d'eau et j'ai trouvé de la sabine à fond, quoi. Et en plus une sabline qui a fleuri beaucoup plus longtemps que l'année d'avant. Donc voilà, en fonction des conditions météo, ça peut aussi influencer la présence de l'espèce, l'abondance de l'espèce sur un site. Voilà à peu près le protocole mis en place, donc ces cadras, et on essaie de suivre ça sur plusieurs années.
Vous écoutiez les Black Angels. On est de retour dans cette émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Une émission mensuelle animée par Jérôme Garcia, qui est chargé de conservation. Et aujourd'hui, suivi d'une plante, donc dans le cadre de la dégradation de son habitat et protocole de suivi que tu viens de nous décrire, il est à destination de qui ? À quoi il va servir une fois qu'il sera complet, ce suivi ?
Alors, les suivis, c'est des choses qui sont réalisées soit suite à une dégradation, soit suite aussi à, parfois dans les dossiers de dérogation, à des déplacements de plantes ou de banques de graines. Et on essaie de voir si la mesure, le protocole de déplacement est... Enfin, là, on est sur un protocole de déplacement, hein, pas de suivi. Donc, si le protocole de déplacement, il est efficace ou pas. L'idée, c'est de pouvoir bancariser ces données, de dire, bon, ben, avec telle et telle méthode de déplacement, ou suite à tel ou tel type de dégradation, on peut espérer revoir la plante après 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ou alors, non, il n'y a plus aucun espoir, la plante ne reviendra pas parce que, voilà, on a fait des suivis sur plusieurs années, hein, c'est des suivis en général qui sont sur d'assez longues périodes. En général, c'est des suivis qui se font à 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 et 20 ans. Après le déplacement ou la modification de l'habitat, la dégradation, etc. Et ça permet, à la fin, ou en tout cas au cours du suivi, d'avoir déjà une tendance de la perturbation ou le déplacement est efficace ou pas. Et ça, c'est à destination surtout des services de l'État, pour avoir une espèce de jauge, pour dire la méthode que vous proposez, qu'un bureau d'études ou un porteur de projet propose, la méthode n'est pas efficace, ça ne sert à rien de la mettre en œuvre, vaut mieux faire plutôt comme ça. Ou alors, carrément, dire le protocole que vous proposez, il est plutôt efficace et ça convient bien pour le maintien d'une population qui, si vous ne mettiez pas en place des mesures de déplacement, serait détruite par un projet, par exemple.
Donc là, tu es en train de compter des sablines, des chaumes. Donc suite à la dégradation de son habitat, ça fait plusieurs années donc, que tu es sur le coup. Ça peut aller jusqu'à 20 ans pour voir si elle se porte bien. Est-ce que ton travail te rend dépressif ou est-ce que de manière générale, ça se passe bien et l'habitat se reconstruit ?
Alors, je passe par plusieurs étapes. En fonction de l'espèce et du contexte. Alors, il y a déjà sur le terrain. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine parce que des cadras, là, j'en ai pas mal. J'ai pas en tête le chiffre, mais j'en ai une bonne vingtaine, même peut-être un petit peu plus. Donc, vous imaginez passer 20 cadras fois 100 mailles.
Ouais, à genoux dans l'herbe, fait, avec les tiques, c'est super.
2000, voilà, avec une petite... Identifier une toute petite plante qui des fois fleurit pas, donc il faut décortiquer un peu tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez fastidieux, il faut être assez,
patient.
Motivé. Patient et motivé, tout à fait, pour se dire que ça a du sens et qu'on va avoir des résultats intéressants après. Et c'est le cas, moi j'aime bien après, de toute façon, je fais un travail à la fois de terrain et de bureau, mais j'aime bien, ensuite, je saisis mes données, souvent c'est sous un tableur Excel, après je fais un certain nombre de statistiques, et puis ça me permet d'avoir un peu une tendance sur mes courbes de les effectifs augmentent ou les effectifs diminuent. Donc c'est sûr que, enfin, dans tous les cas, il y a une information qui en ressort, donc en ça, moi je suis plutôt satisfait. Mais des fois, après, pour la sabline des chaumes, là, les résultats sont plutôt encourageants parce que finalement, je vous ai dit en début que l'espèce, elle aimait bien que le milieu soit perturbé. Et du coup, la perturbation, le risque, c'était qu'en fait, la banque de graines, elle soit enterrée suite à l'ajout de terre, puisque c'était la nature de la perturbation. Mais en fait, l'ajout de terre contenait déjà la banque de graines de la sabline et ça n'a fait que réactiver la sabline. Donc la zone qui a été dégradé finalement, ça a permis de restaurer un milieu favorable à la sabline. Donc voilà, ça a été entre guillemets un mal pour un bien, mais encore fallait-il l'étudier pour pouvoir dire que le résultat est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi labourer tout le causse pour avoir que de la sabine. Hein. C'est pas aucun intérêt. Hein. Chaque espèce est un peu dans son habitat et c'est la diversité des habitats qui donne un équilibre à la diversité du milieu et de l'ensemble. Donc voilà, en tout cas pour la sabline, le résultat actuellement, donc ça fait que 3 ans, mais c'est plutôt positif. Il y a d'autres espèces par contre où on se rend compte que je pense à l'orchis lactée, hein, c'est une espèce qui a fait l'objet aussi de déplacement ou de dégradation, et l'espèce après 5 ans, après 10 ans, elle ressort pas malgré qu'on ait pris soin de la déplacer en conservant le bulbe, une motte de terre, etc. Donc là, bon, je ne tombe pas non plus en dépression, mais je serai en capacité de dire cette espèce-là, faut pas la déplacer. Mmh. Ou en tout cas pas avec la méthode qui a été appliquée. Donc il faut plutôt travailler sur des mesures d'évitement à fond, de réduction d'impact et éventuellement, s'il n'y a pas d'autre choix, de compensation.
Et les suivis des plantes, c'est tous les printemps au CBN ?
Le suivi des plantes, il va dépendre de la floraison, puisque c'est le moment où la plante elle est visible de façon évidente. Moi, mon terrain pour du suivi, ça va de mars à peu près, avec la fritillaire pintade, et ça s'échelonne jusqu'en juin, avec une orchidée qui s'appelle l'orchis à odeur de vanille, et qui fleurit à cette période-là. Et entre cette période-là, entre cette saison, donc de mars à juin, il y a un peu moins d'une dizaine d'espèces qui vont fleurir en échelonnant leur floraison. Et ça me fait aller du coup sur plusieurs départements de l'ex-région Midi-Pyrénées, enfin, parce que il y a la floraison, mais il y a aussi l'habitat. Il y a des espèces qu'on va trouver qu'à tel endroit, d'autres qu'à tel endroit. Voilà, le lauragais, il y a 2 semaines, c'était la floraison de l'orchis papillon, par exemple. Et là, en ce moment, il y a la sabine des chaumes, il y a également la renoncule à feuilles d'ophiophilos, il y a aussi la rose de France, qui sont en pleine floraison et pour lesquelles il peut y avoir un suivi. Alors, pas forcément un suivi sur la résilience suite à une dégradation, hein, mais ça peut être un suivi dans le cas de l'action bénévole et d'Urbaflore, quoi.
En tout cas, si on croise quelqu'un en botte dans un champ avec des grands cadres de 1 mètre sur 1 mètre en bois en train de compter des touffes de fleurs, eh ben, c'est probablement un des chargés de conservation du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui s'assure du suivi d'une plante protégée suite à la dégradation de son habitat. Vous nous parliez notamment du protocole de suivi que vous avez mis en place avec les gestionnaires, avec les services de l'État pour s'assurer du bien-être de ces plantes protégées aujourd'hui. On parlait de la sabline des chaumes ou bien de l'Arenaria controversa. Est-ce qu'on a tout dit ?
Oui, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et puis moi, il va me falloir retourner à mes petites mailles, à mes petits cadres, à mon petit comptage là. C'est à faire mes petits relevés papier. Et puis voilà, j'en ai encore pour toute l'après-midi. Voilà.
On se retrouve le mois prochain. En attendant, bonne chance, hein, Jérôme Garcia, chargé de conservation donc pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui anime chaque mois cette émission Urbaflore sur CFM Radio. Vous pouvez toutes les retrouver en podcast sur le site de CFM. On sait de quoi on parle le mois prochain, Jérôme.
Ah, j'ai pas encore décidé du sujet. Peut-être que je serai encore sur le terrain. Peut-être qu'on prendra du temps avec Violette Franck qui est stagiaire là pour vous faire un petit point sur l'état des stations et notamment la régression de certaines populations qui ont été suivies depuis 2015 dans le cadre du programme Urbaflore. Ça pourrait être le prochain sujet.
Ça pourrait. Et ben bon comptage. Attention au mal de dos. Merci beaucoup, Jérôme.
Avec plaisir, merci Isa, à bientôt, au revoir.